do is job. Can't stop it shine, no man do it long. If I grab some stuff, I run out with a bully bag. Too much fake love, rats and snakes and people like bully frog. Every time I try show love, it's like me only hurt myself. Yeah, please people tell me I rest myself. In the desert, I search for you. Solid till the pressure reach and them turn to me.
For sure, it even not to try. Real to them, why them want me die from? What you not to feel it, part device, my dick by my side. Now make fun cost me life. Hope I'm don't call them now rejoice. And now sacrifice. Who said them solid? Don't water like party ice. Dark wise, choose wisely. Now move slightly. Use my thing, so you guide me. Cool world bringing fire too nightly. Some boy too flighty, yeah. Look who fight me. No feel safe if a gun no beside me. Friend a disappoint me. Not just human being that I might be. Pray for me, keep judge a guide me.
Me revoilà au micro pour les manchettes. Première manchette, un article du journaliste Maxime Bergeron, publié dans le journal La Presse le 17 janvier dernier. Donc, un article qui traite également de la question de l'immigration puis de la crise du logement. Puis, je trouvais cet article pertinent parce qu'il présente, selon moi, une vision moins stéréotypée versus les articles précédents, hein, où on crée en fait un lien direct. Maxime Bergeron parle de poussée démographique, hein, donc j'ai l'impression qu'on nous met moins le blâme sur le dos donc, de cette crise de logement, du logement. Je suis née au Québec, mais je me considère membre des personnes issues de l'immigration. Donc, Maxime Bergeron indique l'an dernier, donc, on a compté 100 000 nouveaux habitants, donc une hausse de 5,3%, puis est essentiellement due à la migration internationale temporaire et permanente. En parallèle, on a connu une baisse au niveau des mises en chantier de l'ordre de 26%. Donc, on parle de la création de 7705 nouveaux logements. Les cibles d'immigration fixées par le gouvernement fédéral, selon M. Bergeron, donc dépassent les capacités d'accueil du pays en matière de transport, puis de logement, pardon, puis de services publics. Au Canada, donc, on a connu une hausse de l'ordre de 1,2 million de personnes, donc une croissance de 3,2%, donc 5 fois plus élevée que la moyenne des pays de l'OCDE. Spécifiquement, donc, on compte 543 000 travailleurs temporaires et 455 000 immigrants. Puis, M. Bergeron parle également donc, de 360 000 naissances et 332 000 décès, donc un écart de l'ordre d'une trentaine de mille. Puis, cette poussée démographique donc, a eu un impact au niveau des hôpitaux, dans les écoles et les refuges pour sans-abri, mais l'impact le plus important est en matière de logement. Donc, une poussée démographique de 3,2%, spécifiquement, donc, on a une mise en chantier pour 4,2 personnes, hein, donc entrant dans la population en âge de travailler. Puis, ben, cette baisse au niveau des mises en chantier est due à l'inflation, entre autres, donc la hausse des taux d'intérêt, les coûts de construction qui font en sorte ben, qu'on construit moins. Donc, on ne peut pas uniquement montrer du doigt l'immigration pour justifier ben, la baisse des mises en chantier, en fait, le fait que le nombre de logements soit moins n'est pas assez important. Donc, M. Bergeron termine en disant que la crise du logement déjà bien enracinée va s'aggraver. Et puis, ben, on espère que ce n'est pas le cas. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Voilà, pour une fois, en fait, on a un journaliste qui ne crée pas de lien direct. Donc, ça fait un peu du bien. Seconde manchette, Ottawa songe à abolir la fessée aux enfants, un article du journaliste Raphaël Pirot de la presse canadienne, publié dans le journal Le Devoir, par contre, le 15 février 2024. Puis, donc, on parle d'un projet de loi du NPD visant à criminaliser la fessée aux enfants. Un projet de loi à l'initiative de Peter Julian, donc un néo-démocrate, qui a reçu, entre autres, donc, le projet de loi des appuis du Bloc québécois, puis des libéraux. Les conservateurs s'opposent à ce projet de loi, par contre. Maintenant, donc, M. Julian, au fond, indique qu'on veut criminaliser la fessie ici au Canada parce que dans tous les pays démocratiques, en fait, la fessie est interdite. Donc, il est absolument fondamental de veiller à ce que les parents disposent de toute la latitude nécessaire pour élever des citoyens équilibrés et productifs, mais la fessée ne devrait pas être une façon d'élever ses enfants. Hein, c'est ce qu'on comprend. Maintenant, à travers le monde, donc, 60% des enfants de 2 à 14 ans subissent régulièrement des châtiments corporels de la part de leurs parents ou d'autres personnes qui s'occupent d'eux, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Canada, la fessée est tolérée en vertu de l'article 43 du Code criminel qui stipule que tout instituteur père ou mère ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas, donc confie à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Puis c'est cet article donc 43 du code criminel que souhaite abroger le député Julian, donc un article en vigueur depuis 1892 quand même. Cette fessée est justifiable pourvu que l'enfant soit en mesure de comprendre la correction d'en tirer profit, que la force utilisée soit passagère et négligeable, et puis qu'il n'y ait pas d'effet préjudiciable sur l'enfant. Donc, on comprend qu'éventuellement, la fessée au Canada sera interdite. Donc, on se laisse maintenant pour une brève pause musicale. En fait, la pièce « When You Need a Friend », une pièce en support aux jeunes des LGBTQ+, une pièce de l'artiste Ellie Lieb, donc Ellie Lieb, L-I-E-B. Donc, on se laisse pour, je dirais, 3 minutes et on se retrouve par la suite. Je vous présente cette pièce parce que nous allons justement tout de suite après d'en discuter d'un article que j'ai trouvé pertinent, donc où on parle justement de la cause des personnes de la communauté gay et lesbienne, en fait, là, dans les années 70. Donc, je vous laisse, et on se retrouve dans, je dirais, là, 3 minutes.
Trying to find a friend when the air feels too thin and the nights get too long. Light up your stereo and play this song. Tides coming in, and the easiest thing is drowning. Take all your strength and fight through the waves. As hard as it is, just don't be afraid. When the pain feels too deep and the nights get too long, stereo and play this song.
Me revoilà au micro, donc on va maintenant s'entretenir sur Zelox Social, en fait un sujet qui a été traité lors de l'émission de novembre 2023. Donc je vous ai défini un peu ce qu'était le dialogue donc en novembre 2023, le Zelox Social, donc de la collaboration, mais on discutait beaucoup donc de négociations collectives. Puis, je voulais à ce moment vous entretenir sur un texte que j'ai lu, que j'ai trouvé très pertinent. Donc, un texte de Madame Marie-France Bureau et Jacques Papy, respectivement professeurs à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et avocat et doctorant à l'Université de Montréal, donc de 2008, donc professeur et avocat et doctorant à l'époque en 2008. Puis le texte indique comment une norme, en fait le dialogue social, pardon, peut transformer une société ou créer des changements. Puis on parle donc de la communauté gay et lesbienne dans le texte, hein, d'où la pièce dont on vient, qu'on vient d'écouter, pardon, « When You Need a Friend ». Donc, le titre de l'article du texte est « Le dialogue social comme moteur de transformation de la norme, l'exemple de l'orientation sexuelle au Québec ». Essentiellement, donc, il est question de l'ajout de l'orientation sexuelle à l'article 10 de la Charte québécoise, les droits et libertés de la personne, sur la reconnaissance de la conjugalité, de la parentalité des gays et lesbiennes, donc leur permettant éventuellement d'adopter des enfants, puis je pense également de se marier. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que il y a eu discussion, en fait, discussion publique, dialogue, voilà, à travers tous les citoyens. Et puis, donc, ça a pris 25 ans pour qu'éventuellement, il y ait inclusion de cette interdiction de discriminer les membres des communautés, de la communauté gay et lesbienne. Donc, nous lisons dans l'article, entre autres, bon, il nous est apparu que les conditions de la formulation des préoccupations des membres de la communauté gay et lesbienne ont été d'abord d'ordre interne. Ce qu'on comprend, c'est qu'au départ, les membres de cette communauté ont discuté, ont fait part de leur situation de précarité sociale, donc à cette époque, dans les années 70, donc un moment où l'homosexualité au Québec était un crime. Puis c'est impressionnant donc de constater le changement de culture. Quand vous lisez l'article, on se retrouve donc dans les années 70. Puis à ce moment, donc les policiers apparemment donc procédaient à des descentes dans les bars gays. Puis donc il y avait une grande répression policière qui s'est apparemment accentuée à l'approche des Jeux olympiques de Montréal en 76. On parle également donc d'un meurtre homophobe, puis de l'assassinat donc de 14 hommes homosexuels. Donc un moment où vraiment donc on parle de crimes, alors qu'aujourd'hui on parle voilà de droits des membres de la communauté gay et lesbienne. Le fait que ces membres de la communauté aient parlé de leur situation, donc voilà, devant, en fait, avec tous les citoyens, donc il y a eu un espace public qui a été créé, puis donc ils ont profité de cet espace public, hein, je dirais, pour parler de leur situation. Puis, donc, il y a eu donc prise de conscience collective et éventuellement, l'État québécois a inclus dans sa charte l'ajout de l'orientation sexuelle comme motif d'interdiction, interdit de discrimination. Il y a eu reconnaissance également de la conjugalité puis de la parentalité des gays et lesbiennes. Afin qu'un dialogue sur le sens de la norme puisse émerger, il est nécessaire que la communauté gay et lesbienne doit avoir accès, en fait, il a fallu que cette communauté ait accès à un espace public pour qu'il y ait transformation de la culture de l'époque. Puis, je vous parle de cet article pour revenir sur le sujet de la syndicalisation des travailleurs de l'économie informelle. Donc, on s'en est parlé lors de la dernière émission. Ce qu'on disait, c'est qu'il fallait vérifier comment s'indiquer ces membres, en fait, les travailleurs de l'économie informelle pour que leur sort, leur situation puisse s'améliorer. Puis aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il faut uniquement, en fait, veiller à les syndiquer, puis veiller, en fait, à ce qu'ils deviennent des personnes salariées? Je suis plutôt de l'école du, on a nos travailleurs de l'économie informelle, on peut veiller à améliorer leur sort, mais pour pourquoi pas ne pas favoriser le travail autonome, donc un travail autonome, donc des travailleurs de l'économie informelle devenant des travailleurs autonomes, mais donc exerçant un travail autonome décent. Je trouve en fait que syndiquer ces travailleurs de l'économie informelle, oui, c'est une bonne chose, mais en fait, après, vous cherchez à ce qu'ils deviennent des personnes salariées. On parle donc d'un processus long et complexe, un processus qui demande la création d'entreprise, qui demande la croissance, puis donc un processus qui est trop long et complexe pour, en fait, parce que il va falloir intégrer toutes ces personnes donc à travers donc le salariat. Je pense que de s'assurer qu'on ait des travailleurs autonomes, tout simplement, voilà, c'est la meilleure des choses. Ce qui serait pertinent, ce serait, selon moi, de revoir un peu, de vérifier comment on peut revoir la gestion de leur entreprise informelle. Donc, en mettant, entre autres, en place une pratique axée sur le développement durable. Puisque quand vous lisez la littérature, le développement durable est synonyme d'une économie de coûts, puis de productivité, d'une plus grande productivité. Donc, en travaillant avec ces gens voilà, pour qu'on gère cette entreprise comme étant une entreprise, je dirais, là, réelle, éventuellement, on arriverait à, je pense, là, on améliore leur sort plus rapidement qu'en visant uniquement à les syndiquer, puis à ce qu'ils deviennent des personnes salariées. Donc, un dialogue social pour promouvoir davantage le travail autonome plutôt que le travail salarié. Donc, je sors en fait la mentalité de voilà, où le travail salarié, c'est ce qu'il y a d'unique en fait. Peut-être qu'elle devrait être revue. Je promouvois aujourd'hui le travail autonome, mais le travail autonome décent. Donc, on passe en même temps à notre sujet du jour, les personnes proches aidantes. Donc, j'ai consulté un article du Journal de Montréal publié le 15 janvier 2024. Donc, un article commandité par le gouvernement québécois. Puis, l'article, en fait, indique, voilà, au départ, faites-vous partie des 1 489 000 personnes proches aidantes, donc qui apportent de l'aide et du soutien à une personne de votre entourage. Donc, les personnes proches aidantes permettent à de nombreux citoyens et citoyennes vulnérables de notre société de vivre une meilleure vie. Donc, on les décrit comme des gens qui soutiennent aux plusieurs membres de leur entourage, qu'ils soient liés par un lien familial ou non. Donc, ces personnes proches aidantes aident ces individus qui ont une incapacité temporaire ou permanente qui limite donc leur capacité physique, psychologique et psychosociale. On prévoit qu'en 2031, une personne sur quatre sera âgée de 65 ans et plus, ce qui va faire en sorte que on aura besoin de plus en plus de personnes proches aidantes. Ces personnes proches aidantes offrent un soutien de manière continue ou ponctuelle à court et à long terme, et cette aide prend de nombreuses formes. Donc, on parle donc d'une personne à se déplacer vers les rendez-vous médicaux, de faire les courses pour la personne, l'entretien domestique, de la soutenir donc dans ses soins médicaux et d'hygiène, donc d'offrir également un soutien émotionnel. Il est important de noter que leur aide est offerte de manière non professionnelle, gratuite, très important, dans le but de favoriser donc le rétablissement donc de ses proches qui ont besoin de soins, mais aussi dans le but de leur permettre de jouir d'une qualité de vie rehaussée, donc à travers donc au domicile, puis dans des milieux de vie également plus encadrés, comme dans les résidences pour personnes âgées. Donc important, donc de manière générale, ce sont les femmes qui composent, qui ont cet âge de proche aidante, donc environ 58%, donc, et puis le tiers de ces femmes donc, concilient également donc, la responsabilité de la proche aidance, comme on dit, avec leur responsabilité au travail. On parle d'une grande charge mentale à cette fonction de proche aidant, ce qui découle donc voilà, qui exerce en fait une pression importante sur la vie familiale, sociale et professionnelle. Les tâches réalisées par ces personnes proches aidantes peuvent limiter leur disponibilité auprès d'autres personnes, auprès donc de leur entourage, ce qui vient miner la santé physique et mentale. Puis également, donc on parle de répercussions financières dans le cas d'une perte de revenus liée à une diminution des heures de travail. Le gouvernement du Québec vous fournit une information sur ces personnes proches aidantes. Rendez-vous sur le site, hein, donc voilà, en lien avec le sujet. Donc, vous avez les mots-clés « famille » et « soutien aux personnes », / personnes proches aidantes, et vous allez retrouver le site web destiné donc aux personnes proches aidantes. En fait, l'État a mis en place plusieurs actions pour soutenir ces personnes. Il a adopté, entre autres, une loi visant à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Également, l'État québécois a adopté une politique nationale pour les personnes proches aidantes, donc reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités d'engagement. Puis également, donc, un plan d'action 2021-2026, donc reconnaître pour mieux soutenir. Et donc, sur la question des répercussions financières, du fait de la tâche de proche aidance, j'ai lu un article de madame journaliste Hélène Schaff, donc paru dans le Journal de Montréal en 2022, donc un article qui date de 2 ans à peu près, 1 an et demi, on vient de débuter l'année 2024, mais qui est tout aussi pertinent, qui est vrai encore aujourd'hui. Donc, on indique au départ que plusieurs des 1,5 million de proches aidants au Québec vivent avec de l'instabilité financière. Donc, on parle de dépenses annuelles de 7 600 $, de congés sans solde, d'une réduction du temps de travail, de démission. Et la situation ne ferait que se dégrader. Au départ, on a Madame France Blois-Claire et puis Madame également Louise Charret qui présente un peu leur situation. Hein. Donc, Madame France Blois-Claire indique qu'elle a eu un enfant qui a été diagnostiqué, donc présentant donc des lésions cérébrales importantes. Et puis, éventuellement, Madame Blois-Claire a dû quitter son emploi parce qu'elle a dû prendre soin de son fils multi-handicapé à temps plein. Et donc, mais perte d'emploi signifie perte de tout revenu. On a de l'autre côté, pardon, Madame Louise Charret, qui a dû soutenir, soutient toujours, peut-être aujourd'hui, ses parents atteints de la maladie, les deux parents en plus, atteints de la maladie de l'Alzheimer. Ce qui sauve Madame Charret un peu, c'est le fait qu'elle soit travailleuse autonome, mais ce qu'elle indique, c'est que cette tâche de proche aidance auprès de ses deux parents gruge du temps de travail. On parle donc de pression financière, puis elle appréhende les prochaines années parce que la maladie est dégénérative. Puis, maladie de l'Alzheimer, en fait, c'est un peu, pour tout ça, on vient... cette maladie concerne tout le monde. Hein. Et donc, on parle de vieillissement de la population, donc tout le monde est un peu, cette réalité de proche aidance concerne tout le monde, juste avant, donc, on parle d'un enjeu de pauvreté. Donc, cette instabilité financière crée un enjeu de pauvreté, particulièrement pour les femmes qui ont déjà des salaires inférieurs et de moins bons régimes de retraite, souligne Diane Gabrielle Tremblay, professeure à la TELUC. Elle a participé, donc, Madame Tremblay, à la dernière étude canadienne sur le sujet en 2015 qui démontre que les proches aidants perdent de nombreuses heures de travail et dans 10% des cas, ils doivent quitter leur emploi. Il y a également des dépenses annuelles, donc cette fameuse dépense d'une moyenne de 7 600, dépenses annuelles, donc selon un rapport de l'Institut de recherche publique en politique publique. Donc, il faut que le gouvernement doit chercher à améliorer la situation de ces personnes proches aidantes en aménageant du temps de travail, en leur octroyant des congés, en les compensant, ces personnes pour les dépenses supplémentaires et la perte de revenus due à la diminution des heures de travail. Donc, puis ben, voilà, parce qu'on parle vieillissement de la population, augmentation possible du nombre, en fait, clairement du nombre de prochains ans, entre autres parce que, voilà, ce qu'on dit dans l'article, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de déverser 6 000 $ par mois pour une résidence, en fait, offrir une résidence, en fait, pour personnes âgées là, à ses parents, entre guillemets, quand je dis offrir. Ce qui fait que probablement de plus en plus, on va devoir recourir à la prochaine danse, mais bon, il y a toutes sortes de problématiques reliées à cet âge de prochaine danse qu'il faut régler tout de suite. Et voilà. Maintenant, dans la politique nationale pour les personnes prochaines, vous avez l'orientation 4.3, donc prévenir la précarisation de la condition financière relative au rôle de personnes proches aidantes. Essentiellement, on lit que les caractéristiques socio-économiques individuelles et familiales représentent un déterminant important de la santé et du bien-être. Pour favoriser la qualité de vie des personnes proches aidantes, il importe donc d'agir en vue de prévenir l'appauvrissement pouvant découler du rôle qu'elles assument. Outre la perte de revenus ou d'avantages sociaux pouvant découler d'une perte d'emploi ou d'une diminution des heures travaillées, il y a également l'augmentation de certains frais attribuables, par exemple au stationnement, à l'adaptation du domicile, au déplacement, au soutien psychosocial. Donc, tout peut contribuer à la précarisation de leurs conditions financières. En tant que compte, en tenant compte, pardon, donc, des différentes réalités des personnes proches aidantes, des actions inhérentes à cette orientation doivent permettre la mise en place de moyens visant à prévenir tout au long de leur parcours l'insécurité financière pouvant découler de leur rôle. Et donc, pour cette raison, le gouvernement du Québec offre des différentes mesures, en fait, de soutien financier. Essentiellement, donc, on parle donc, de crédit d'impôt pour personnes proches aidantes, de montants pour autres personnes à charge, de suppléments pour enfants handicapés, de crédit d'impôt pour frais médicaux, pour solidarité, pour maintien à domicile. Donc, pour l'information sur l'ensemble de ces mesures, en fait, pour ce soutien financier, en fait, rendez-vous donc sur le site du gouvernement du Québec destiné donc à ces personnes proches aidantes. Puis, voilà, puis vous pourriez là, vérifier comment, en fait, vous assurer si jamais vous êtes proche aidante ou vous avez, éventuellement, on le saura peut-être tous, hein, donc vérifier comment on peut améliorer, s'assurer de ne pas connaître une instabilité financière. On se laisse maintenant pour une brève petite pause musicale, en fait, d'un artiste, donc Missier Sadiq, un artiste guadeloupéen, donc qui parle de la maladie d'Alzheimer, donc une pièce dans sa langue natale, le créole. Et on se retrouve par la suite, en fait, pour la suite de l'émission, donc en fait, sur le sujet toujours des personnes proches aidantes, pardon. Donc on se retrouve dans 3 minutes.
Mami pa bon, il doit qu'a faire attention, maman elle veut tati, chaye yon consultation. Yo retourne vers midi, et devine ka maman dit. Maman dit docteur, dit mami Alzheimer. En dit maman souple, dit docteur, y'a ses racontes bêtises. Mami pas mal à souple, y'a pas y'en faveur. Même si ces jours-là, voyez qu'a confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur, dit mami Alzheimer. Maman souple dit docteur y'a ses racontes bêtises. Mami pas mal à souple pas y'en faveur. Même si ces jours-là voyez qu'à confondre Loïc et Lévi.
On pas qu'à comprendre, j'ai maladie la savine. Les yo dis moi ça, on comprend c'était un poisson d'avril. On pas bise sable, on pas vine manger un poisson samedi. Mami, pas ni longtemps, t'es présenté ou en chabine. Mais docteur dit ou pas qu'à même songer. L'ouvre nous t'es timou, n'en peut pas quoi qu'elle oublie. Va bagarrier l'ilou, n'en qu'à penser c'est un tige. Pas grand café et puis nous, comme quoi on pas sable, mimi y'a outil. Qu'elle a posé des sons qui louent, mami.
Maman dit docteur dit mami Alzheimer. En dit maman souple dit docteur, y'a ses racontes bêtises. Mami pas mal à souple. Même si ces jours-là, voyez qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur, dit mamie Alzheimer. En dit
maman souple, dit docteur, y'a ses racontes bêtises. Mamie pas malade, souple, pas y'en faire. Même si ces jours-là, on voyait qu'à confondre.
Dit docteur, y'a même pas de diagnostic là, ça, y'a pas qu'on est femme solide là, ça. Howlet, si zikle, y'a victoire, mi c'est ça, y'a tenu à savoir, mamie. Ainsi va la vie, tout le monde qu'a ni oublié. En savou, pour comparer, laissez t'y case la vide, moi.
Où savent, j'en dis, bouga ou savant. En c'était rapport, ou à mettre la ni faute à dents. En cas interdit, y'a des faits ou pour médicaments.
Parce moi, y'en pas contacté. Car quoi ça docteur l'a dit?
Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a ses racontes bêtises. Mamie pas mal la souple y'a pas y'en faveur. Même si ces jours-là envoyés qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a ses racontes bêtises. Mamie pas mal la souple y'a pas y'en faveur. Même si ces jours-là envoyés qu'à confondre Loïc et Lévi.
En fait, tant que j'arrête ma oké, qui ont été trompés ou en chimère, on joue même pas les des moins, qu'on s'y entre l'école primaire, des fois, en t'es qu'à passer vrai, ou pas t'es même qu'à faire un petit moins, en t'es qu'à dire moins, peut-être qu'on pas t'es qu'à dire mais, joue là où prier moins étranger, en comprendre c'était yangé, y'en pas dit y'a rien, peut pas expliquer, j'en senti moins, joue là en senti ni en danger, en senti mamie changer, ou pas dit y'a rien, ma gueule, j'entends moins t'es des senti moins, mamie.
Mamie, 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 mamie.
Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a ses racontes bêtises. Mamie pas malade souple pas y'en faveur. Même si ces jours-là envoyés qu'à confondre Loïc et Lévi.
Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. On dit maman souple dit docteur y'a ses racontes bêtises. Mamie pas malade souple pas y'en faveur. Même si ces jours-là envoyés qu'à confondre Loïc et Lévi. Maman dit docteur dit mamie Alzheimer. C'est la cause des bêtises. Mamie pas malade, souple et pas y'en faveur. Même si c'est joulin, voyez qu'à profond Loïc et Lévi.
Loïc et Lévi. Loïc et Lévi. Mamie, mamie. Mamie, mamie. Oh.
Me revoilà au micro, toujours sur les ondes CKUT 90.3 FM à Montréal. Donc, toujours sur le sujet donc, des personnes proches aidantes. Maintenant, donc, on va consulter, en fait, j'ai consulté un rapport de recherche ou l'ébauche d'un rapport de recherche de l'Institut universitaire Sherpa. L'Institut universitaire Sherpa est une équipe financée par les fonds de recherche du Québec Société et Culture et par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et puis le mandat de l'Institut est de veiller à un avancement des connaissances et le développement de meilleures pratiques en matière d'intervention de première ligne en contexte de pluriethnicité. Puis j'ai consulté ce rapport de recherche parce qu'on fait créer le lien entre les personnes proches aidantes, puis ben, le fait de faire partir d'un groupe ethnoculturel. Hein. Nous sommes à l'émission « La voix des immigrants ». Donc, au Québec, autour des années, en 2020, mais autour d'octobre 2020, il y a eu donc une vaste réflexion sur la contribution des personnes proches aidantes, puis c'est ce qui a mené donc à l'adoption de la loi visant à reconnaître et soutenir ces personnes proches aidantes, également donc à l'adoption de la politique nationale sur les personnes proches aidantes, puis du plan d'action, voilà. Et maintenant, donc, l'Institut universitaire Sherpa, donc en lien, là, qui attaché et relié au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, a obtenu donc le mandat de recherche, un mandat donc visant à étudier les réalités et les besoins spécifiques de ces personnes proches aidantes, mais issues de communautés ethnoculturelles et donc de langue anglaise, en vue de définir des pistes d'action donc, pour soutenir ces personnes. L'Institut universitaire Sherpa va produire une synthèse critique et contextualisée sur la réalité de ces personnes proches aidantes et issues des groupes ethnoculturels. Personnes évidemment qui également vont prendre soin d'un fils, d'une mère, d'un conjoint, d'un ami, d'un voisin malade, donc vivant avec des incapacités ou des problèmes de santé. On veut vérifier comment prendre en compte leurs besoins spécifiques, les besoins spécifiques de ces gens, personne proche d'Inde et également donc membre d'un groupe ethnoculturel. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a peu de recherches sur le sujet. Et quand je dis peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Donc pour les petites recherches là, qui ont abordé donc, l'expérience de ces voilà, personnes proches d'Inde et appartenant à un groupe ethnoculturel, en fait, certaines, en fait, celles qui, voilà, qui existent, se traitent donc de jeunes adultes proches aidants, appartenant donc à un groupe ethnoculturel minoritaire, également donc jeunes adultes et personnes réfugiées. Puis, donc, il ressort des recherches, donc, ces personnes rencontrent en fait les mêmes défis, donc, versus des personnes, je dirais peut-être de souche, donc, personnes proches aidantes de souche, donc, on parle des défis en termes, donc, de santé physique, de santé mentale, également, donc, de bien-être psychosocial. Toutefois, ces défis prennent une teneur particulière lorsqu'on considère d'autres enjeux et besoins associés à leur statut migratoire, leur expérience d'immigration, leurs conditions de vie, et puis également donc les conceptions donc de ces personnes appartenant à des groupes ethnoculturels, conceptions d'obligations familiales, de maladies, de vieillesse ou de handicap. Donc, on parle d'une intersection, en fait, là, au niveau de la vulnérabilité, en fait, du fait d'être une personne proche aidante, puis également d'appartenir, pardon, à un groupe ethnoculturel. Donc, ces personnes donc, seraient plus susceptibles d'avoir des besoins non comblés en matière d'informations financières et juridiques, en matière de conseils et de formation, ainsi qu'en matière d'accès à des groupes de soutien. De plus, plusieurs ne se reconnaissent pas à titre de personnes proches aidantes. Puis, je trouvais pertinent d'en parler parce qu'en fait, ben, d'abord, de préciser un peu, voilà, développer un peu sur le tout, parce que ces personnes ne se reconnaissent pas à titre de personnes proches aidantes. Pour quelles raisons? Je pense que, ben, je dis, c'est mon opinion, hein, une question, je dirais, culturelle. Hein, je suis originaire du Congo, Kinshasa. Et donc, une culture voilà, africaine, et une culture non occidentale ou non nord-américaine. Puis, j'ai l'impression, mais c'est mon opinion, c'est un préjugé, certes, j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, il y a davantage un réflexe de placer, comme on dit ici au Québec, ses parents donc dans des résidences pour personnes âgées versus dans les cultures, je dirais, occidentales, mais non nord-américaines, et les cultures donc, des pays du Sud ou, bref, des pays en développement. Puis, donc, ces personnes ne se reconnaissent pas à titre de personnes proches aidantes, peut-être pour cette raison, parce que c'est naturel, donc, de s'occuper de son parent à la maison, donc vieillissant, et donc de l'avoir à la maison. Mais, dans l'article, donc, on dit, ben oui, elles ne se reconnaissent pas à titre de personnes proches aidantes. Toutefois, on indique également que elles n'utilisent pas ou elles utilisent moins les services de santé formels pour des raisons plus structurelles que culturelles. Hein. En fait, on parle de méconnaissance des services, on parle de manque de flexibilité, on parle de barrières linguistiques, de difficultés à obtenir des services d'interprètes qualifiés, d'une méfiance envers les institutions gouvernementales. Puis on parle également donc d'expériences passées de discrimination puis de racisme. Ok, donc intéressant. Les résultats de la recherche seront diffusés à l'automne ou au printemps 2024. Je dirais plutôt au printemps ou à l'automne 2024. Un rapport sera déposé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis par ce rapport, l'État québécois sera en mesure d'élaborer, de mettre en place des mesures spécifiques pour les personnes proches aidantes appartenant à des groupes ethnoculturels. Voilà. Et donc, vous êtes une membre d'un groupe ethnoculturel. Sachez donc, voilà, que vous avez accès premièrement à du financement, des mesures de soutien financier pour vous aider. Puis, sachez également que des mesures seront élaborées spécifiquement pour vous aider dans votre tâche de personne proche aidante. Donc, on se laisse maintenant pour une belle autre et dernière pause musicale. On va écouter ensemble la pièce Mario de Franco, l'artiste congolais. On a écouté sa pièce, je dirais, en novembre 2023. Mais on va l'écouter, voilà, un beau 3 minutes cette fois-ci. Hein, la dernière fois, ça n'était pas possible. Hein, puis on parle d'un vieil artiste décédé, mais pour les plus âgés d'origine congolaise, plus âgés, voilà, c'est un beau souvenir d'écouter cette pièce entre la pièce Mario de Franco. Et on se retrouve pour la fin de l'émission.
Lelo makambo lobi makambo na lembi e lelo bitumba lobi kosona e na baye e na boyi ko baby sanzoto na matanga na lembi e Mario na lembi e Mario na baye e
oh Mario nasi na pekisa yo Kulinga kapesi bazena mbongo Yoka ndengi azaliko kabayo Na mitema ya basi pe na mibali Yu moto zena ba diplome mitano Mario Sala kameme foro luka mosala Mario Pona nini ozako baby saka usambu sakombo nobo Mario Ah, alembi
Ba protinga na pakolaka Zotwe koma sembe sembe Oko petenga na zoka Lobi na swa maladi ya kanser Lobi tango na kopola yo kimi daye Mario na baye Mario na lembie
Ba familia Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosoro Nzoka nga moto na latisaka ye na leisaka ye na lalisaka ye Mario na lembie
Kambo moke mosala kobo mabino
koyanda
koe na somba na lembie Mario na baye yo ene Mario na lembio
Mario okutinga na biloko mombali mosusu a somba oyo kelingi ya kofanda te Mario oyo kelingi te olia na mesa Kaka soki zue kanyo na poitrine Olinaka kompeta ngai nako boma biloko Mario, sinasalisa yo mingi Diploma si mangamu nasalisa kiyo Mario Bongo leonga kumimwa si mabe Mario likambote Ah, mokilie, ezaka kapoye
Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi Nabandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur Mario abimbi moto, akanisi biloko nanga ye ye Mario nabaye yo, kende Mario nalembi yo
Mario asongi epe ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana Eko mitango akola la mbeto mokuse makolo milai Mario Mario na lembi Somba mbeto na baye Mario na lembi
Koyoka motema pasite Ndako nga moko na futaka Ila mana sombela yo Katike liyo souvenir ya bolingo Salina la vache, na cotine la yon abato Mario, na lembio Kende na yon abaye yo
Mario
passé, Mario. Mario, mon salaco bête d'un gars banadi coco. Banango ya yo. Olingo beba mama mo bokoli.
Me revoilà au micro et l'émission est terminée. Donc, à nouveau, Je vous invite, je vous avais parlé de la coalition humanitaire.ca, en fait, une coalition donc, de divers organismes canadiens visant à soutenir et fournir une aide aux personnes touchées par la crise dans la bande de Gaza, donc par la guerre, je dirais en Israël, bande de Gaza. Donc, vous avez donc toujours le site www.coalitionhumanitaire.ca. Vous pouvez également communiquer donc avec l'organisme en les contactant au 1-855-461-2154, 1-855-461-2154. Maintenant, je voulais promouvoir quelques artistes d'origine, voilà, d'origine diverse, issus de, je dirais, des groupes ethnoculturels, mais d'origine diverse. On a premièrement Edith Kabuyan, une Congolaise d'origine, qui est auteure et scénariste. Elle est autrice, entre autres, de la série web Utuku, qui a reçu un prix à Los Angeles, je dirais, autour des années 2020-2021. Une jeune Congolaise du Québec, donc Congolaise entre guillemets, citoyenne québécoise. Puis elle a entre autres écrit, publié deux séries de romans, Les Divines et puis les Divines entre autres, Les Maudites. Vous n'avez qu'à taper Edith Kabuya. Kabuya, c'est K-A-B-U-Y-A. Puis vous allez trouver un peu ses œuvres. Et puis ben, voilà, l'ensemble de ses œuvres à la fois en termes de livres et puis ben, sa série web. Également, vous avez le chef cuisinier Joël Ntambu, un autre Congolais d'origine du Québec également, donc qui est propriétaire de l'entreprise de traiteur et de service, je dirais, à domicile, Chef ou Chef. Donc, allez sur le site www.chefouchef.com, puis vous allez retrouver voilà, les services offerts par Monsieur Ntambu. Et Monsieur Ntambu également produit des épices. Donc, j'en ai commandé, là, je ne les ai pas encore essayées. Donc, produit des épices, hyper intéressant. Je vous suggère de vous en procurer. Je vous conseille d'écouter les podcasts Camerounais d'origine, Cyril Ekwala, propriétaire d'un institut né au Québec. Monsieur Ekwala, voilà, à son site, un organisme qui veut un peu défendre, je dirais, la cause des néo-québécois, parler de la réalité des néo-québécois. Puis également, donc, il a des podcasts. Là, je pense qu'il apparaît sur CBL 101.5, donc vous pouvez écouter ses podcasts, mais ses podcasts sont également présents sur son site web. Donc, très intéressant. Vous avez Irinée Routema, qui est chroniqueur politique à la radio, donc à CJMD de Lévis, donc Station de radio de Lévis, à l'émission Laurent et les Truands, donc au 96.9 FM, du lundi au jeudi, de midi à 15h, puis M. Routema, donc à l'intérieur, ben, je ne sais pas quand exactement, est-ce qu'il est là du lundi au jeudi, peut-être que non, mais voilà, donc vous avez les sont Laurent et les Truands, puis M. Routema, donc, qui est chroniqueur politique. Également, Boucard Diouf, un artiste qu'on connaît bien, qui est chroniqueur pour le journal La Presse, bien intéressant. Maka Koto également, un ancien politicien québécois d'origine, je pense que Maka Koto, il est, j'ai oublié de quel pays il est spécifiquement, mais chroniqueur pour le journal de Montréal. Ce qui m'amène à réfléchir sur la question de la diversité dans les médias. En fait, on va à l'émission La Voix des immigrants, puis je répète, maintenant, ce qu'on veut, c'est, je dirais, un peu se spécialiser sur la question de tous ces enjeux, en fait, concernant les pays en développement, enjeux traités par les Nations Unies, donc spécifiquement concernant, je dirais, là, parce que, ben, on veut respecter un peu nos qualifications, je dirais. Donc, enjeux traitant, donc, de démocratie, du travail, des droits de l'homme, du développement durable également. On veut également parler de politique gouvernementale québécoise, donc ces grandes politiques de l'État québécois qui concernent, oui, les citoyens québécois, bien évidemment, mais également les communautés culturelles, donc l'ensemble des citoyens québécois. Donc, sinon en jeu traité, traité par les Nations Unies, mais également à l'Organisation internationale du travail. Puis, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, là, je me posais la question sur... je parlais, en fait, là, M. Makakoto, il, en fait, est un genre de journaliste, hein? Booker Diouf également. Puis après, ben voilà, je réalise qu'il y a peu, en fait... je réalise, ou en fait, je dirais plutôt qu'une... qu'une recherche a été publiée. Donc, l'Association canadienne journalistique a publié en 2023, donc une recherche récente. L'Association canadienne des journalistes a publié donc, l'année dernière une recherche parlant donc, de diversité dans les médias. Puis, je trouve ça intéressant. Ce qu'on comprend, c'est que 75% des journalistes au Canada s'identifient comme appartenant donc à la race blanche, comme étant blanc. 5,2% s'identifient comme autochtones et 19,3% s'identifient comme appartenant à une minorité visible. Puis, j'en parle parce que ben, hein, quand je consulte les articles pour l'émission La Voix des immigrants, ben, je constate que je tombe sur peu de journalistes semble appartenir à des groupes ethno-culturels. Donc, voilà, puis j'aimerais ça peut-être promouvoir un peu davantage ces journalistes, mais bon, est-ce que c'est peu possible, en fait, pour l'instant. Donc, on va s'entretenir éventuellement sur le sujet. En fait, on va parler de la question immigratoire. On prépare un dossier actuellement, puis on veut aborder des questions donc, sur la nécessité, je dirais, ou la plus-value d'immigrer aujourd'hui en 2024, donc de quitter son pays d'origine pour s'installer dans ces fameux pays, je dirais, là, nord-américains. Est-ce que la plus-value est encore réelle? Hein? À l'aube, je parle toujours du fameux programme de développement durable 2030, donc à l'aube de cette année 2030, est-ce qu'il y a encore une plus-value ou on devrait peut-être favoriser davantage ben voilà, le fait de rester dans son pays d'origine et de parler de développement durable de son pays d'origine? Hein? Parce que je comprends qu'au niveau des quand on parle d'immigration, il y a beaucoup un enjeu de conditions de travail qu'on juge meilleures ailleurs, mais est-ce que c'est réellement le cas? Conditions de travail, conditions sociales, mais est-ce que c'est réellement le cas? Également, à travers notre dossier d'immigration, on va parler donc de déqualification, donc de ces personnes immigrantes qui arrivent au Québec, puis finalement qui doivent recommencer leur étude, de l'intégration donc de ces personnes immigrantes en région, où on a une population, je dirais, de souche. Monsieur Legault parle beaucoup d'intégration en région, je pourrais dire, où on veut amener ces immigrants à vivre en région, mais dans les régions, des fois, on se retrouve dans des milieux, je dirais, plus encore homogènes. Puis, est-ce que l'intégration, elle est facile, donc, pour ces personnes, qui viennent d'immigrantes, de s'intégrer dans un milieu, je dirais, homogène, et au Québec, on parle de milieu homogène blanc. Donc, voilà. Pour éventuellement, j'ai pas de date précise là, sur voilà le moment où je serais présenter ce dossier sur l'immigration, mais tout de même on va donc intéressant à venir. On va également parler de la question donc de diversité dans les médias. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Vous vous rappelez que j'effectue toujours du bénévolat, en fait, au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Donc, et au Centre, ben, vous avez donc l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires et travailleuses et travailleurs d'agences de placement. Donc, contactez le Centre si vous vivez des difficultés voilà, particulières au niveau du travail. Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre également au département donc, de la production, donc production à commercial. CKUT.ca. Également, donc, vous avez les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Rendez-vous à la prochaine émission, donc le 28 mars 2024. Et on parlera à ce moment donc, du travail carcéral, mais travail carcéral en fait là, des personnes issues, je dirais, des groupes ethnoculturels. En fait, j'ai consulté un article du travail carcéral aux États-Unis, puis ce qu'on comprend, c'est que les personnes issues de la des minorités visibles, donc personnes noires, et etc., sont surreprésentées au niveau de ce travail, je dirais, le carcéral, en fait, donc travail de personnes prisonnières ou prisonniers, des prisonniers. Puis également, donc on va étudier, vérifier un peu ici ce qu'on dit, c'est que oui, ces groupes seraient donc peut-être surreprésentés, mais également il y a des autochtones, également des personnes donc autochtones qui sont également surreprésentées au niveau là, du voilà, un milieu carcéral québécois. Donc, on se retrouve le 28 mars 2024 et je vous dis donc, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Et puis, donc, à la prochaine.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca. The show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional student and community productions in and around Montreal. The island also known as Jojage in the Ganiagaha language and Munyang in Anishinaabe Mohan, where we spell theater with an R-E at the end in English and in French. I'm your host, Sarah De A, recording from home on Thursday, February 22nd, 2024. On tonight's show, my guests include an Australian circus troupe with humble beginnings finds fans and support in Montreal. Gravity and Other Myths is relaunching their sold-out show, The Mirror, at La Tohu this week.
We're a group of mates in Adelaide. We're all teenagers and we're all just hanging out doing circus. As kind of a recreational activity after school, but we really loved it. So we decided not to hang up the boots and we founded the company and we started making shows and the rest is history, I guess.
Anarchist theatre artist Norman Navratsky returns to the story of Marusia Nikiforova on a somber anniversary.
Maybe this will help us understand what's going on out there, maybe help inspire us.